G.
Comme D.
Goûte mes disques.
Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du Média et WMZ Goûte mes disques. Alors le principe, il n'a pas changé depuis le premier numéro. Nous invitons des gens dont nous apprécions le travail, pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important dans leur vie ou dans leur carrière. C'est le fameux Game Changer qui donne son nom à ce programme. Et pour ce nouveau numéro de Game Changer, je retrouve Nico. Salut Nico.
Comment ça va ?
Moi ça va et toi
ça va,
ça
super,
va bien,
pleine ouais. forme.
Ah, pleine forme vraiment.
Ravi de te retrouver. Non, pas vraiment, mais pleine forme quand même.
Et aussi pour ce nouveau numéro, on a le plaisir d'accueillir à notre table Ambre Chalumeau. Salut Ambre, est-ce que ça va aussi bien que nous ?
Vous êtes tellement plus frais que moi.
C'est vrai,
mais ça va aussi.
C'était pas gagné. Dans Game Changer, c'est toujours l'invité qui se présente. Alors, je te passe la parole pour que tu nous en dises un petit peu plus sur la belle personne que tu es.
Oula. Alors, Ambre Chalumeau, 26 ans, température ressentie, 82 ans. Et on se connaît parce que depuis quelques années, je m'occupe de la rubrique culture de l'émission Quotidien, qui est tous les soirs sur TMC. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'un jour, tu m'as proposé d'écrire un petit truc pour Goûte mes disques sur des chansons que j'ai aimées. Et j'ai fait des choix qui t'ont plu, parfois indigné. Et depuis, on s'indigne régulièrement l'un l'autre par message Instagram.
C'est vrai. C'est
et je suis très honorée d'être invitée
c'est
ici.
C'est une belle relation que nous avons. Bah, merci. Je pense que le décor.
On s'insulte.
Voilà.
Non, on se valide aussi. On est d'accord sur pas mal de choses.
Bah, écoute, je pense que tu as très bien planté le décor. Alors, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on plonge la tête la première dans ce nouvel épisode de Game Changer. C'est parti. Comme vous le savez, nous avons demandé à Ambre de choisir un album qui a une importance toute particulière pour elle, un disque qui va servir de point de départ à la discussion. Et le titre de cet album, comme d'habitude, c'est l'invité qui a le privilège de nous le dévoiler. Donc Ambre, on t'écoute.
Alors je crois que les gens stylés qui disent LA pour Los Angeles diraient AM, mais moi je dis AM.
AM, donc le cinquième album studio des Arctic Monkeys, qui sort en septembre 2013 sur le label londonien Domino, sur lequel on fait de très belles rencontres depuis plus de 30 ans maintenant. C'est sur ce label qu'est sorti le premier album de Franz Ferdinand. C'est sur ce label que la carrière d'Animal Collective a décollé. C'est aussi sur ce label qu'on a pu faire la connaissance d'artistes aussi importants que Fortet, The Kills et mes petits chouchous d'Archie Bronson Outfit, si vous ne connaissez pas, vraiment,
ruez-vous. Ça fait très plaisir que tu les cites.
Ah ouais, il faut écouter l'album Derdeng. Si vous aimez votre rock bien gras, c'est vraiment un régal. Mais je m'éloigne déjà du sujet. Et on va revenir au disque qui va nous occuper aujourd'hui, AM. Alors, on ne va pas perdre un seul instant et on va écouter Nico qui a pour mission de nous présenter le disque. Donc Nico, à toi de jouer.
Eh bien, notre histoire débute en 2005. Un tout jeune groupe anglais, originaire de Sheffield, non signé, parvient sans mal à jouer à guichet fermé dans tout le Royaume-Uni, remplissant même sans aucun problème la London Astoria, une salle qui est aujourd'hui fermée mais qui était capable à l'époque de rassembler 2000 personnes. Ce groupe a un nom. Les Arctic Monkeys. Bien vite, ils ont évidemment un label, Domino. Leur premier single sort le 17 octobre 2005. C'est la chanson I Bet You Look Good on the Dance Floor. Et elle atteint directement la première place des charts britanniques, éclipsant quand même des mastodontes comme les Sugar Babes ou Robbie Williams. Un groupe est né. Un hymne aussi, ce sont les années MySpace, Baby Shambles, Gibus, Bébé Rocker, Vox Pop, Underage Festival, New Musical Express, Von Bondies, j'en passe, et évidemment des bien meilleurs, j'avais envie de citer les Von Bondies, on le fait pas assez. 8 ans plus tard, 2013, une éternité à l'échelle d'un genre, le rock, qui n'hésite pas à abandonner sur la route ses plus emblématiques et dévoués ambassadeurs, mais aussi, peut-être pour certains, le temps nécessaire pour atteindre une maturité fantasmée par d'autres. AM AM, éventuellement. Et le cinquième album studio des Arctic Monkeys, on l'a dit, il sort le 9 septembre 2013 sur Domino. Encore et toujours, ils n'ont jamais changé de maison, malgré les ponts d'or d'autres labels. Un album qui contient des collaborations avec Josh Homme des Queens of the Stone Age, Pete Thomas, l'un des meilleurs batteurs du monde selon Tom Waits, et Bill Ryder Jones, ancien membre des géniaux The Coral. John Cooper Clarke a participé à l'écriture de I Wanna Be Yours. Et l'album a été produit par James Ellis Ford et coproduit par Ross Orton. Un album collaboratif donc, mais aussi et surtout un album plus. Plus sombre, plus lourd, plus américain aussi peut-être, on aura l'occasion d'en parler. Je vois Jeff déjà qui soupire, plus blues. Plus
et moi qui l'étrangle.
Plus hip-hop aussi, oui, oui, cela s'entend par endroits. Plus connu aussi, il s'agit de leur plus gros succès encore à ce jour. Un album plus, ultime preuve, pas moins de 7 singles ont été extraits du disque qui comporte en tout 12 titres. 7 singles, pour info, c'est les mêmes chiffres que le Thriller de Michael Jackson, qui certes ne comptait que 9 titres en tout. Tout cela pour vous dire que AM, malgré son titre et sa pochette peu inspirée, je trouve, n'est pas, selon moi, l'album le plus représentatif des Arctic Monkeys, ou des Arctic, quand on est fan, on les appelle ainsi, et ce pour une raison toute simple, puisque cet album n'existe pas. Car oui, depuis les années MySpace, le groupe n'a jamais cessé, disque après disque, de devenir autre chose, tout en creusant un sillon classieux et entêtant, et c'est bien là sa force, autant qu'une surprise pour les auditeurs des premiers jours, AM est un grand disque niché au cœur d'une bien plus grande discographie. Je sais que t'es pas d'accord.
Mais alors, si, si.
Les auditeurs, Jeff se tortille sur sa chaise depuis 2 minutes. Il fait des petits bruits.
C'est la fatigue, ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est d'abord, c'est une excellente chronique. Merci, Nico. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ambre. Ton choix.
Je suis pas fâchée, je suis juste déçue. Voilà,
non, mais déçue. Je pense que ça va être l'occasion, j'espère, de passe d'armes mémorables. Parce que tu as choisi un album que j'ai en fait le plus grand mal à apprécier. En fait, c'est un album qui, chez moi, incarne une forme de rupture dans ma relation avec l'Arctic Monkeys. Mais ça tombe bien, on est là pour en parler, on est là pour discuter, on est là pour trouver des solutions. On va trouver des solutions. Et on va vraiment, je doute pas que tu vas me remettre.
Dans quoi je me suis lancée, moi.
Sur le droit chemin. En tout cas, quand on a préparé cette émission. Et c'est une habitude, on demande toujours à l'invité de nous glisser vraiment juste quelques mots au sujet du disque pour un peu mieux appréhender les origines de la passion. Et toi, bon, directement,
j'ai répondu une page Word.
Une belle tartine, une page de Word. Donc j'en déduis qu'on est sur une énorme passion AM et ou Arctic Monkeys.
Alors, oui, mais j'aimerais qu'on... Parce que je vois bien que je suis face à un tribunal aujourd'hui. Ah. Non, mais j'aimerais qu'on soit précis sur les termes. Vous ne m'avez pas demandé quel est le meilleur album de tous les temps.
Non.
Vous ne m'avez même pas demandé quel est le meilleur album d'Arctic Monkeys.
On m'avait demandé bien sûr.
De trouver un album qui a compté pour moi.
Voilà.
Et comme je t'ai répondu la première fois, avec mon syndrome de l'imposteur qui s'est immédiatement activé, je t'ai dit, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ce podcast, je résonne très peu en album. Mm-hmm. J'ai partie de cette génération fossoyeur de la musique qui a tout consommé en aléatoire, toujours. J'ai découvert les plus grands artistes par des compilations, j'écoutais en shuffle, donc vraiment résonner en album, c'est très peu naturel. Donc j'ai réfléchi à quels albums j'aime bien dans leur ensemble. Avec quels albums je ne me sens pas coincée si je les écoute d'une traite. Il y a quelques noms qui sont venus. Et ensuite, comme la question était quel album a compté pour moi, comme j'écoute beaucoup de choses qui se sont faites avant le général de Gaulle, j'avoue. Ça, c'est un des rares albums dont j'ai vécu la sortie, que j'ai aimé dès sa sortie, et où j'ai l'impression de faire partie d'une communauté de gens découvrant l'album. Donc, je ne dis pas que c'est le meilleur album de tous les temps, mais effectivement, j'adore cet album. Je le réécoute avec plaisir, je ne m'en lasse pas. Il n'a pas non plus 1500 ans. Mais j'ai très hâte de savoir quel défaut tu lui trouves. Après, là, je suis d'accord avec ce que Nico a dit. C'est dur de parler d'un album représentatif d'Arctic Monkeys dans le sens où, jusqu'aux deux derniers, ils avaient quand même ce truc, jusqu'à AM en tout cas, enfin, même jusqu'au dernier, ils ont ce truc de ne jamais faire deux albums vraiment pareils.
Ça, on ne peut pas leur reprocher de facilité.
Et évidemment,
de la facilité.
À vie, on se souviendra d'eux pour leur premier album, qui est probablement leur meilleur, leur plus mythique, que j'adore, évidemment. Je reste quand même une bonne personne, ne t'en fais pas. Mais, tu vois... Pour peu qu'on les ait découverts par Humbug, on pourrait se dire que c'est ça l'Arctic Monkeys. Moi, j'ai quand même une grande tendresse pour Suck It and See. Enfin, je les trouvais géniaux pour ça aussi, c'est qu'à chaque fois, ils ne faisaient pas totalement pareil, jusqu'au drame de la musique Bar Lounge des deux derniers albums.
C'était quoi ta relation aux Arctic Monkeys avant AM ? T'étais déjà fan ? Tu connaissais
moi, déjà bien ? Moi, j'ai rejoint le navire en cours de route, parce que je ne sais pas, c'est 2005 la sortie du premier album ?
Ouais.
2005, j'ai 8 ans, donc j'étais pas encore à Sheffield en train de pogoter. Moi, je les découvre au moment de la sortie de Suck It and See.
Ouais.
Et là, je suis au collège et je tire le fil, je découvre les autres albums, je deviens tarée. C'est le premier groupe que je vois en concert, à la Cigale, j'avais 13-14 ans. C'était vraiment fondateur, mais j'ai cette conscience d'avoir rejoint le train en marche. Et je me souviens, par exemple, je les avais vus à Rock en Seine quand ils étaient passés. C'était une édition de Rock en Seine glorieuse où il y avait eux et les Kills, et genre Cage the Elephant, c'était fou. Et je les vois et je suis accompagnée de ma grande sœur qui a 8 ans de plus que moi et d'une amie à elle. Et son amie dit, oh là là, toutes ces petites meufs avec des sacs Longchamp qui sont fans d'Arctic Monkeys alors que nous on est là depuis le début. Et je me suis sentie totalement visée par cette phrase qui était pourtant pas contre moi. Et c'est vrai que j'avais ce complexe de, ouais, t'étais pas là depuis le départ. Et voilà, quand M est arrivée, j'étais déjà une fan installée. J'ai accueilli l'album comme tel. Et j'ai pu prétendre à des opinions sur voilà, quelle place il a dans la discographie, comment ça change. Je débloquais ce truc des fans de chercher chaque petite info comme si c'était une pépite d'or. Genre, tu te rends compte, il a enregistré avec une guitare bleue alors que les autres c'était une guitare rouge, mais c'est dingue. Voilà, je rejoignais. Je découvrais ce que c'était d'être fan de gens vivants, déjà, et de pouvoir en parler avec d'autres gens vivants et de rejoindre un mouvement. Et ça, c'était très cool.
Ouais. Mais. Ce disque, il te fait encore ce même effet parce que c'est assez passionné, c'est assez intense ce que tu nous racontes sur ce disque. Aujourd'hui, c'est encore un disque que tu écoutes beaucoup et qui te ramène ces mêmes émotions.
Ça va plus loin, je dirais même que je débloque des trucs.
C'est vrai?
Souvent, ouais. C'est une des premières fois que je faisais une écoute un peu mature d'un disque, nouveau, dans le sens où je faisais gaffe aux paroles. Après, je n'ai pas fait gaffe aux paroles au point d'aller les lire toutes religieusement. Mais à chaque fois que je réécoute, voilà, je suis agréablement surprise d'un petit effet de plume, un petit effet de manche. Il y a vraiment des chansons que je trouve très sophistiquées. Et c'est là où on peut débattre de est-ce que c'est un drame ou pas quand un groupe de rock devient sophistiqué alors qu'on les a connus, crado et débutant. Moi, les Arctic Monkeys, autant j'aime AM, autant ça coïncide avec le moment où je commence déjà à être un peu déçue d'eux, dans le sens où je trouvais qu'ils avaient ce truc absolument génial de leurs premiers albums, où ils étaient boutonneux, humbles, anglais. Et là, moi, quand je vois Alex Turner à Rock en scène, tu te souviens peut-être, il arrive sur scène et il dit « Je suis une rock star ». Et il commence Library Pictures et tu te dis « Ah merde ».
C'était déjà la période gominée, etc.
Exactement, c'est le moment où, à force qu'on lui dise, bah, il réalise qu'il est très beau, il réalise qu'il est très doué, il réalise qu'il a une voix, il réalise qu'il a une plume, et c'est là où ça va dégénérer en Alex Turner et les Arctic Monkeys, où les derniers albums, c'est lui, sa voix et une instru derrière.
Ouais, c'est ce qu'on allait...
Ma fanitude n'était pas dénuée de lucidité. C'est-à-dire qu'en concert, je trouve qu'il commence à prendre une direction un peu trop star, un peu trop si. Mais l'album, je trouvais que c'était un rock mature, léché, noir, mais d'un beau noir brillant comme un vinyle ou une belle veste courage peuvent l'être. Je trouvais ça... Les paroles... j'écoutais Arabella en venant là, qui est une chanson que j'idolâtre totalement parce que je trouve que c'est de l'excellence, mais qui garde quand même une dimension un peu de jeu d'enfant. La façon dont il étale les paroles sur différentes tonalités, la façon dont il va vraiment abdiquer sur le fait de faire des paroles et il dit, voilà, elle m'embrasse et ça donne, et là, il y a un solo de guitare. Je trouve qu'on reste quand même dans une écriture terrain de jeu, mais très, très bien faite. Et donc, oui, j'adore toujours.
Et c'est ça qui est intéressant parce que moi, je trouve que c'est vraiment un album qui est sur une ligne de crête et toi, tu vas le trouver élégant. Moi, je vais le trouver too much, en fait, ce disque. Typiquement au niveau de la production.
Un peu grandiloquent.
Un peu trop grandiloquent. Alors que, voilà, il tente d'autres choses, c'est super. Mais comme tu dis, ce côté où tu as le sentiment qu'Alex Turner, il est en train de se dire « Mais je suis une putain de rockstar. » Et là, on va un peu peut-être jouer ce côté à peut-être à 110% qui peut être bien.
Mais j'entends
en fait,
encore...
Ça me déplaît par rapport à ce qu'il est capable de faire et à l'énergie qu'il est capable de mettre sur tous les premiers disques ou même sur des projets plus dépouillés. Ça, c'est la BO qu'il avait fait pour le film
Submarine.
Ouais. Et là, je me suis dit, mais voilà, ça, c'est exactement ce que je vais aller rechercher dans un projet parallèle. Et comme tu le dis toi-même, j'ai un peu le sentiment que c'est une sorte... il prend un peu le groupe en otage à partir de
non,
ce moment-là.
Non, moi, AM, j'entends encore un groupe. Il y a quand même Vlad batterie, Vlad guitare. Souvenons-nous, une des genre B-side ou single qu'il avait... qu'ils avaient publié avant AM, c'était Matt Elders qui chantait. Donc on s'est tous dit que c'est pas le moment où voilà, il y a même d'autres figures qui vont émerger. Enfin, moi j'entends encore un groupe à ce moment-là.
Ah bah parce que les pauvres, ils doivent se faire chier dans le groupe là actuellement. Enfin, je sais pas ce que ça doit être d'être les autres.
Ouais, les derniers albums,
le pauvre Matt Elders,
ça
peut être un peu.
Il part en tournée avec Iggy Pop, il s'éclate à côté.
Ça, c'est pas mal.
Ouais.
Pour tout dire, j'ai pas du tout votre cerveau à vous sur la musique. J'arrive pas du tout à raisonner vraiment en termes de est-ce qu'un disque est important, est-ce qu'il est bien fait. Moi, je suis juste une bonne vieille auditrice, j'avoue. Et cet album, je l'adore parce que dès que je l'écoute, il continue à m'invoquer les mêmes images. C'est assez marrant comme les musiques que j'écoute m'invoquent des images qui sont pas du tout ma vie. Par exemple, l'Arctic Monkeys, c'est quoi ? Tu vois, que quand j'écoute AM, je me vois dans une, à l'arrière d'une berline, me rendant vers une soirée où un mec sublime et rocker m'attend. Quand j'écoute LCD Sound System, j'ai l'impression d'être sur un rooftop à New York. Quand j'écoute les derniers albums de Phoenix, j'ai l'impression que je suis à Tokyo, à une soirée en transhumance vers une autre soirée. Alors que moi, dans ma vie, je suis chiante, je sors pas. tu vois, l'album AM...
C'est un peu le but de la musique en même temps.
Mais c'est ça, mais, donc mais... C'est aussi cette vie-là qui me fascinait. Tu vois, AM, c'est quoi? C'est je l'appelle la nuit, elle répond pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Moi, la chanson, c'est « You call me when you're high, but I don't respond because il est 23h et que je dors, en fait. » Donc, c'est cet univers-là que j'ai fantasmé, très cinématographique. J'ai beaucoup d'images qui viennent en tête quand j'écoute AM. Tu vois, Nisox, je me suis toujours imaginé un clip en l'écoutant. Voilà.
C'est marrant parce que c'est leur album le moins visuel, je l'ai dit. Cette pochette ressemble vraiment pas à grand chose.
Ça laisse la place pour
nous
aussi.
J'imagine qu'ils ont dû faire des clips, mais il n'y a pas de clip.
Il n'y a pas de clip emblématique particulièrement.
Do I Wanna Know, il y a cette onde qui se transforme en silhouette.
Mais c'est ça que tu dis. Et attention, c'est vrai que sur Goutte Mes Disques, Dieu sait si on s'est intellectualisé par moment la musique, peut-être un peu trop. je t'avoue que moi, attention, j'écoute vraiment, mais vraiment de tout, avec pour seule règle, si je tape du pied en l'écoutant, c'est que j'aime bien et que mon corps a aimé, que ma tête aime bien, et donc va pas plus loin. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est ça, quand j'écoute chaque fois ce disque, et c'est ça qui me déçoit le plus en réalité, c'est que chez moi, en moi, il ne suscite rien. J'ai l'impression que je suis imperméable au disque.
Tu fais un IRM, je sais pas.
Non, mais tu vois, moi j'écoute Humbug, j'écoute le premier, j'écoute Humbug, qui est moi mon disque préféré des Arctic Monkeys. Peut-être parce que j'aime tout ce que fait Josh Homme, parce qu'il y a aussi un peu le problème. J'ai l'impression que les deux seuls albums des Arctic Monkeys qui n'ont pas été produits par c'est James Ford.
Absolument.
Dont j'adore le travail, c'est un gars qui est dans Simian Mobile Disco. Mm-hmm. C'est la moitié de Simian Mobile Disco. Exactement. Il produit plein de groupes, etc. Et j'ai l'impression que les deux seuls albums qui n'ont pas été produits par lui, à savoir le premier et Humbug, sont les albums où j'avais le sentiment d'entendre le groupe Arctic Monkeys. Et j'ai l'impression sur tous les autres albums, ben, Alex Turner, il sait ce qu'il veut, et que j'ai un peu le sentiment qu'il est il est peut-être un peu dictatorial, et bah, je pense que les derniers albums du groupe l'ont montré. Je pense qu'il se rêve un peu aussi en Gainsbourg, anglais.
Ouais, mais tu vois, ce qui est dégueulasse, c'est que quand on n'aime pas, on dit que c'est un dictateur. Quand on aime bien, on dit que c'est un génie. Tu vois, on pardonne beaucoup aussi à ces musiciens, showrunners, à vision, un peu tout sachant, tout puissant.
Non, moi, j'ai aucun souci avec un musicien qui pense mieux savoir que tout le monde. Mais ça, par contre, c'est triste quand ça tue le groupe. Je veux dire, les possibilités pour un mec comme Alex Turner d'aller vivre une carrière à côté des Arctic Monkeys, je pense que...
Bah, attendez, le groupe va bien, hein, quand même. Tu dis tuer le groupe, mais ils sortent des albums régulièrement, qui se vendent, ils tournent énormément tête d'affiche. On est
mais
pas
est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont privilégié un succès d'estime et de critique chic plutôt qu'un succès public bon vieux pogo? Je sais pas. Après, ils viennent
Après, ils sont même pas très vieux en plus. Ils ont quel âge, ces gens?
Il a 11 ans de plus que moi, Alex Turner, je le sais parce que j'ai beaucoup pensé mariage avec lui. Donc j'ai 26 ans, il a 37 ans.
Je me demandais, est-ce que AM, c'est un album doudou? Pour toi, est-ce que c'est un album quand t'as besoin de réconfort, de te sentir bien? Est-ce que c'est un album que t'écoutes ou il n'a pas cette utilité-là, forcément?
C'est un album qui peut carrément me sortir de l'amorosité, ouais.
Okay.
Je pense qu'il y a beaucoup de chansons de cet album que j'ai du mal à passer. C'est-à-dire, quand elles sont aléatoires, je les laisse. Clairement, je pourrais mal aller, en fait, me laisser revigorer par un Are You Mine ou... amené dans un truc un peu plus guiré par un Snap Out of It. Ouais, il y a un truc doudou. Peut-être que ça coïncide aussi avec le fait que quand il sort, je suis au lycée. C'est une période de ma vie que j'ai énormément aimée. Et puis, j'ai pratiqué une réception un peu collective de cet album. J'en parlais un peu avec des amis. On avait des débats enflammés avec une bière dans une main en disant « Mais tu peux pas dire des choses pareilles !» Ça renvoie à ces trucs-là. Donc, ouais, il y a clairement une dimension doudou. Et je trouve même, pour essayer d'invoquer des images qui peut-être ne parlent qu'à moi, mais... que cette musique chaude, profonde, je sais pas, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement accueillant dans des sonorités comme celle, comme le début de Do I Wanna Know. C'est vraiment, il y a un truc, c'est profond, tu peux te lover dedans. Il y a quelque chose de chaud. J'ai toujours trouvé, par exemple, ce genre de rock beaucoup plus aphrodisiaque que les chansons qui sont réputées pour faire l'amour, les trucs un peu jazz, un peu soul. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui directement... Comme quelque chose qui, en un instant, irait dans toutes les veines de ton corps. Il y a quelque chose où, d'un coup, voilà, t'es happé dans quelque chose de très accueillant. Je ne fais plus aucun sens. Pardon, je me tais. Donc oui, c'est clairement doudou.
Tu disais que tu l'écoutais au lycée, période que t'aimais beaucoup. C'était cool d'écouter AM des Arctic Monkeys au lycée en 2013?
Je sais pas. Moi, j'avais vraiment comme seul accès à ce qui était cool ou pas, mes potes.
D'accord.
Et je pense qu'on était clairement pas représentatifs du reste du monde. On était des petits connards parisiens... très, très référencé. Moi, j'ai eu un collège extrêmement solitaire, notamment dans mes écoutes de musique. Je découvrais des vieux machins, j'étais obsédée par ça. Peut-être par snobisme, peut-être juste par goût, j'aimais vraiment pas ce qui se faisait au Hit Parade de quand j'étais au collège. J'arrive au lycée, qui était un lycée un peu de nerd, et je débarque et il y a des gars qui s'habillent en style mode, un peu vintage. Je me souviens que je me découvre mon meilleur pote parce qu'il gribouille des phrases, qu'est-ce qu'on était clichés, il gribouille des phrases genre de Bob Dylan sur la table. Je découvre qu'il y a d'autres gens qui écoutent ça. Et ils m'ont montré énormément de musique, contrairement à moi qui ai très peu confiance dans mon goût et ma capacité à aller chercher des trucs. Eux, c'est des diggers, ils passaient des nuits sur YouTube à voir des vidéos à 12 vues et ils avaient une grande culture encyclopédique et ils découvraient sans cesse des trucs. Donc je débarquais, mon meilleur pote fondait vers moi dans la cour et disait « Oh putain, tu connais Kraftwerk ?» Je dis « Non, c'est quoi ?» Et on découvrait les trucs ensemble. Donc c'est une période très... C'est là où je découvre qu'on peut se montrer la musique, ça devient très collaboratif alors qu'avant c'était très solitaire. Et je sais pas si on était cool. Fondamentalement, ouais, on a découvert des trucs avant d'autres gens. Mes potes, ils écoutaient Paradis avant que ce soit connu, La Femme avant que ce soit connu. Ouais. On était beaucoup dans le passé, mais il y avait quand même plein de trucs un peu nouveaux. Tous les machins, King Lizard, trucs mûches, ils étaient très au fait de ça. Les Cleaners from Venus.
Ah, mais c'est bien, ouais.
Bon, ça, c'est pas récent, mais...
Non, mais aussi cool au lycée.
À 16 ans, je peux dire que j'allais dire, il n'y avait pas ce niveau de coolitude.
Mes potes étaient vachement cool. Peut-être pas représentatif, peut-être pas... je sais pas si on aurait été considéré comme cool à l'époque, mais ouais. En tout cas, nous, on était vraiment des petits connards, on mettait des chemises hawaïennes et on s'habillait en fringues vintage, on écoutait de la vieille musique et c'était chambé.
Bah, je pense que vous étiez cool. Ouais.
C'est gentil. Après, on est dans une cave, tous les trois, à parler d'albums. Est-ce qu'on peut vraiment dire ce qui est cool? Je ne sais pas.
Ouais, on est cool, les gars. Quand même parler d'albums, donc voilà.
Ouais. On est cool, les gars, on est trop cool.
Mais oui. Et justement, parlant d'être cool, interview Alex Turner, c'est un truc que tu trouverais super cool, justement?
Ah, je
sais
pas.
C'est quelque chose qui te...
Je sais pas. Bizarrement, non. L'épouser, ça a été un projet pendant un moment. L'interviewer, je crois pas que ça m'ait déjà traversé l'esprit. J'ai comme l'impression qu'il serait rétif. Je me l'imagine maintenant un peu génie renfermé, un peu snob. Peut-être que c'est totalement faux. Je pense que ça m'intimiderait beaucoup.
Il n'est pas très bavard. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai, c'est que c'était pas...
Je suis pas certaine de vouloir
le rencontrer. Après, moi, c'est pas une idole, donc j'y suis allé, je m'en foutais un peu, très honnêtement. Il y a des artistes que je veux jamais rencontrer, parce que je pense, pour le coup, c'est risqué de rencontrer ces idoles. En même temps, tous les exemples, toutes les idoles que j'ai rencontrées, chaque fois c'était un bonheur, genre les Strokes et tout, voilà. Mais Alex Turner, non, c'était pas un grand bavard.
Mais je vais vous dire une bonne chose, je ne veux même plus l'épouser aujourd'hui. Ils m'ont perdu. Et je peux vous dire que dans les headquarters des Arctic Monkeys, quand il y a le stagiaire Rémi qui allait leur dire, après la sortie de l'avant-dernier album, les gars, la petite là, Ambre, elle aime plus, ça aurait dû les inquiéter. Ils ont choisi d'ignorer ça, ils ont continué leur direction. Et ben, tu sais quoi, Alex ? Pas la peine de toquer à ma porte et de m'appeler tard le soir. Ils m'appellent pas du tout.
Mais est-ce que t'as pas aussi le sentiment ? Enfin, moi, j'ai halluciné sur les stats parce que, bon, on sait que si tu regardes les stats de streaming, qui est, on va dire, le maître étalon aujourd'hui, j'ai été halluciné de voir les stats de stream des Arctic Monkeys.
Le milliard, je crois.
Ah bah, il y a quand même deux morceaux qui passent les 2 milliards d'écoutes. Je veux dire, 2 milliards d'écoutes, on arrive pour des morceaux de rock, c'est assez exceptionnel.
Bah, il y a Do I Wanna Know, non ?
Il y a Do I Wanna Know et un autre de cet album-là, je suis...
Are You Mine ?
C'est marrant que ce soit pas le premier album, quand même.
Et le troisième morceau qui passe le milliard, c'est 505.
Ah Ça a aidé beaucoup de ruptures, faut dire.
Ouais, qui est un peu leur tube aussi de live, je pense. Je pense que c'est un peu
et qui a un énorme carton sur TikTok.
Ah ouais ?
Quand ils ont joué à Rock en Seine il y a 3 ans, quelque chose comme ça, j'avais trouvé la setlist un petit peu bizarre. Et il se trouve que je suis très pote avec Christophe Morassin, que j'embrasse, qui travaille chez Domino France. Et je trouvais la setlist super chelou. Et surtout, je trouvais que les réactions étaient dingues pour des titres comme 505, qui... à mes yeux, en tout cas, n'étaient pas spécialement des tubes. Enfin, voilà.
Ouais.
Et en fait, Christophe Morassin m'expliquait, me disait, non mais en fait, TikTok s'est emparé de deux titres d'Arctic Monkeys, 505 et un autre que j'ai oublié, que je retrouverai. Mais voilà, c'est des chansons qui alimentent des TikTok, on dit ça, des TikTok, à longueur de journée. Et du coup, le groupe a un nouveau public et certains titres ont quasiment une nouvelle jeunesse, une seconde jeunesse, grâce à TikTok.
Et maintenant, c'est moi qui peux faire la vieille. Exactement. Il y aura tous ces jeunes qui découvrent ça sur TikTok.
Et donc,
TikTok.
Tu es dérangé de te faire déposséder du disque, peut-être, maintenant ? Non, ça ne te dérange pas, ce côté... ces nouveaux fans qui débarquent et ces...
Non, ça pour le coup, non. Ce serait une mauvaise chose de ma part.
Il n'y en a aucun qui ont débarqué avec les deux derniers albums en plus. Donc...
Non, ouais, c'est sûr qu'ils n'ont pas renouvelé la fanbase avec ça. Ça c'est,
Non, mais en revanche, j'ai eu un petit réflexe snob quand j'ai découvert que typiquement Do I Wanna Know, tu vois, c'était cet album-là qui avait été très écouté. J'ai eu un petit réflexe snob de « Ah ouais, donc maintenant tout le monde l'écoute, ça a dépassé le milliard. »
Ouais. Ça te dérange un peu quand même.
Ouais, mais ça je crois que c'est un mauvais biais... Tu vois, un mauvais réflexe un peu snobinard de « Ah, ça y est, ça devient très, très connu. »
En fait, je pense qu'on l'a tous.
Ouais, mais j'ai totalement fait ma paix avec ça depuis. Un c'est une excellente chanson. Tant mieux que...
Non, mais c'est une excellente chanson, mais surtout, j'ai le sentiment d'entendre les morceaux de ce disque typiquement, mais dans les synchros de reportages. À la télé, on l'entend, mais en permanence, je veux dire.
À ce moment-là, il y a très bonnes chansons qui sont niquées par ça.
Ah, mais oui, mais c'est absolument horrible.
Toute la discographie de Ratatat, déjà, qui a mis l'intégralité des documentaires.
Ah, mais c'est terrible, ça.
Radiohead, ouais.
Ouais. Ça doit être très dur en tout cas pour. Enfin, j'imagine, je sais pas. Je vois ça, je me sens dépossédé de ma fan attitude. J'ai un peu le sentiment de me faire salir. Toi, t'as
Il y a le syndrome du. Ouais, ça pour le coup, je peux pas dire ça pour l'Arctic Monkeys parce que j'ai pris le train en marche. Mais le syndrome du tu découvres un groupe au New Morning et un jour il fait Bercy. Ça, c'est très désagréable. Ou même, tu vois, genre, j'ai un pote qui me tanne avec Haïm depuis que Haïm sont dans leur chorale de collège. Mmh. Et là, elle a fait le film de Paul Thomas Anderson. Donc, tout le monde écoute Haïm. Donc, il est désespéré. Mais comme, tu vois, ceux qui jouaient Murder on the Dance Floor depuis hyper longtemps,
ils sont désespérés
parce que c'est dans le film Saltburn.
Je joue Murder on the Dance Floor en DJ set depuis 10 ans. Mais non, mais là, la prochaine fois que je vais le faire, on va me dire Saltburn.
Exactement.
Mais j'ai toujours pas vu. Ouais. On m'a dit que c'était un mauvais film. Mais ouais. J'ai appris il y a quelques temps seulement que ce morceau revenait très très fort. Mais pour moi, ce morceau n'a jamais disparu.
On est bien d'accord.
On est d'accord que c'est un tube intemporel.
Mais du coup, nous, on doit être, tu sais, comme ces fous qui crient à la fin du monde, on est dans la foule à dire moi, ça fait 5 ans et on se fait emporter. Par les gens, tu sais.
J'étais là avant.
Je propose qu'on fasse une sorte de petite pause récréative, qu'on passe à autre chose dans ce podcast, tout en continuant à parler de musique, bien évidemment, mais dans un contexte quelque peu différent. Alors, je t'explique, Ambre, à chaque épisode, on en profite pour replonger dans d'autres disques de l'année qui nous occupe, 2013. Donc, je vous en propose 3, on en discute brièvement, et ensuite, chacun choisit son chouchou. Alors, 2013, c'est l'année du Random Access Memories de Daft Punk, c'est l'année du Pure Heroin de Lordi, ou du Yeezus de Kanye West, mais c'est pas ces 3 disques-là que j'ai choisis, pourtant Dieu sait si je les adore. Alors, on va commencer tout d'abord, premier choix, par Beyoncé de Beyoncé. Dans cette émission, on a justement évoqué la position centrale que pouvait avoir AM dans la carrière des Arctic Monkeys. C'est un disque pour lequel on pouvait identifier un avant et un après. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je l'avais ressenti. Et je trouve qu'on pourrait appliquer la même logique à ce 5e album de Beyoncé, parce que c'est le premier sur lequel, pour moi, elle semble s'arrêter de courir inlassablement après les tubes pour se concentrer vraiment à 200% sur l'artistique, sur vraiment la totalité de la proposition. Et je trouve qu'avec ce disque, elle a vraiment cette volonté d'acquérir ce statut d'icône encore plus grande que sa propre musique. Alors évidemment, des tubes, il y en a sur le disque. Il y a Drunk in Love avec Jay-Z. Il y a cette superbe ballade qui est XO. Mais on a un peu l'impression qu'ils deviennent presque accessoires dans le plan de carrière de Beyoncé, qui est arrivée à un stade de sa trajectoire où elle peut véritablement laisser libre cours à sa créativité et à ses envies sans qu'un type en col blanc la freine vraiment dans ses ardeurs. Alors chez moi, ça suscite une seule question essentielle. Est-ce que c'est elle la plus grande de ces 50 dernières années?
Alors là... Si c'est la plus grande des 50 dernières années, peut-être pas 50 quand même, mais...
Ah, je sais pas, 30 ?
Ouais, en vrai, qui d'autre qu'elle, qui continue de sortir régulièrement des disques, continue de se challenger, a des tubes à non plus finir, même ces morceaux qui sont pas de façon évidente des tubes finissent par le devenir.
Elle en a retrouvé sur le dernier album, mais en réalité, à partir de ce disque-là, c'est difficile, on a plus de mal, Lemonade, Il n'y a plus de grands tubes. Quand tu vas la voir en concert maintenant, c'est ça qui est impressionnant. C'est la proposition qu'elle te fait. Moi, c'est les lives, je l'ai vu à partir de cette tournée-là 3 ou 4 fois.
C'est assez fascinant, les lives.
C'est fascinant, c'est magnifique. C'est vraiment un spectacle total, même dans un stade. Et Dieu sait si ce n'est pas facile de tenir un stade.
Ouais, non, je pense que, ouais, en effet, la plus grande.
Moi, je pense qu'on peut aller sur 50 ans, à mon avis. Bon, 50 ans, ça nous ramène, année septembre.
50 ans, tu vas vexer des gens quand même. Hein,
moi, je risque de vexer des gens, mais il faut savoir aussi poser des choix. Mais elle est là depuis longtemps, Beyoncé. Elle est là depuis quoi 25 ans quand même.
Pas 50 ans.
ouais.
Elle a pas plus 50 ans, mais...
C'est vrai qu'il y a un truc, ouais. Tu vois, Beyoncé, moi, j'ai jamais été une grande auditrice, mais j'ai écouté, du coup, l'album Beyoncé, là, il y a pas longtemps, et je me suis formulé ça aussi, mais je maîtrise moins le reste de sa carrière, mais qu'effectivement, elle osait, et elle pouvait get away avec des trucs très anti-commerciaux, a priori, sur cet album-là.
Ah bah oui.
Pardon, excuse-moi.
Non, mais c'est ça, mais je suis d'accord avec toi. En plus, celui-là, c'est un album audiovisuel. Ça commence, tu vois qu'il y a ce côté, ce côté audiovisuel. Mais pour moi, c'est le début de ses projets dingues, son concert.
Moi, ça me gonfle un peu, ça, pour le coup. L'album qui, en fait, est également un film, oui, ça me parle pas.
Ouais, elle se faisait plaisir. Mais c'est comme après, c'est comme son concert à Coachella. De se dire qu'elle a fait un concert à Coachella, qui est disponible sur les plateformes, qui est sur Netflix, d'ailleurs, je pense.
Qui est assez fou.
Qui est fou. Qui n'a existé qu'une fois. Mmh. Enfin, ce que ça a dû coûter de monter ce truc, ouais, qui n'a été fait qu'une fois, qui n'a pas tourné. Moi, je trouve ça.
Mais clairement, si tu dois chercher des critères pour déterminer si quelqu'un est le plus grand ou quelqu'un la plus grande, si tu prends un critère de nombre d'écoutes, elle y est. Si tu prends un critère de pharaonisme, elle y est. Et même si tu prends un critère d'impact sociétal, enfin, moi, typiquement, la dernière tournée, je trouvais qu'il aurait fallu un philosophe, un Edgar Morin, pour en parler, comme Edgar Morin a parlé des premiers concerts Yéyé, par exemple. Ouais. Il y a tellement de choses à en dire. Il y a tellement de symboles dans le symbole dans le symbole. Je pense à ce moment où elle s'avance dans la foule, vraiment en tête d'un cortège composé de danseurs pas blancs, queer, ouais, en train de faire du voguing. Et t'as vraiment un truc, elle ouvre la voie, un espèce de cheval de Troie, de voilà, bah, par ma musique qui va se retrouver dans toutes vos soirées et que même vos darons vont écouter, j'amène avec moi un peu de cette culture. Enfin, je trouve, ouais, qu'il y a un symbolisme dingue dans ce qu'elle... Celle qui dicte un peu un certain tempo au monde. Enfin, il y a quelque chose de vraiment fascinant.
En tout cas, elle apporte quelque chose parce qu'on a le sentiment que la seule qui va être capable de la challenger actuellement, c'est Taylor Swift. Mais j'ai le sentiment que Taylor Swift, ça raconte tellement moins de choses.
Il y a le côté country, machin, mais c'est vrai que sociologiquement...
Il y a très longtemps, on veut
dire... Taylor Swift
justement, à un moment, elle s'est dit, on va commencer à faire des tubes, elle a bossé, on en revient à Max Martin, qui lui a fait, enfin, je veux dire, ses plus grands tubes. C'est Max Martin, c'est...
Taylor Swift, elle raconte une incroyable histoire, mais c'est une histoire... presque extra-musical, enfin, c'est une histoire sur l'industrie.
Oui, voilà, ça revient beaucoup sur l'industrie du disque, comment les artistes sont dépossédés de leur œuvre.
Il y a une page Wikipédia extrêmement riche, extrêmement complète, qui se lit comme un roman sur ses bisbilles de droit et pourquoi elles enregistrent les albums. Et ça se lit limite comme un thriller, comme un polar en tout cas, mais sa musique en soi... non, j'ai pas l'impression que...
T'as un côté sociologique qui existe moins, quoi. Tu vois, un concert de Beyoncé, tu vois des gens dans la foule qui sont des jeunes, qui sont... habillés avec des paillettes, potentiellement des looks gender fluid, et c'est des gens qui, quand ils vont prendre le RER pour rentrer du Stade de France, peuvent se faire casser la gueule par des gens qui les croisent. Mais dans cet espace-là, ils ont cet espace-là, qui est le concert de Beyoncé. Je sais pas si Taylor Swift a cet équivalent.
Ben moi, j'ai son sentiment que Beyoncé, elle a encore le contrôle sur sa carrière. C'est ça que je trouve dingue avec Beyoncé, c'est que malgré toutes ces années, malgré... elle a un niveau de célébrité qui est colossal, et j'ai le sentiment que Beyoncé est en contrôle de tout. Et Taylor Swift, j'ai le sentiment que Taylor Swift, elle est un peu débordée par sa propre célébrité qui allait ces deux dernières années. Je trouve que moi, ça prend des proportions qui sont délirantes, parce qu'en fait, tu parles aux gens de Taylor Swift, tout le monde connaît Taylor Swift, mais demande à 10 personnes, cite-moi 3 morceaux de Taylor Swift. C'est difficile. C'est difficile. Cite-moi 3 morceaux de Beyoncé,
Blank
je pense.
Space
et We Are Never Ever Getting Back Together.
Ouais, et celui où elle fait du hip-hop, là, son clip.
Shake It Off,
voilà, ça fait
voilà,
3.
Mais tu vois, on a galéré. C'est un peu plus galère, quoi.
Je vous ai laissé parler. Hein.
J'ai bien vu de ta part. Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le talent et l'importance de Beyoncé. Et
tu vas vexer Madonna quand même en disant que c'est la plus grande des 50 dernières années.
Mais oui,
et fais gaffe parce qu'elle peut débarquer à tout moment
ici dans les studios. Ah là là. Nous, on va passer sur quelque chose d'un peu plus clivant que Beyoncé parce qu'on enchaîne sur Blizzard. Soit le premier.
Attends, je prends une gorgée d'eau pour pouvoir faire.
on se demandait justement avant l'enregistrement.
Oui,
j'ai appris que vous pensiez que j'étais fan.
Non,
j'ai genre. Les gars,
on va en parler. On va en parler. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire mon travail, s'il te plaît. Donc, j'en reviens à Blizzard, soit le premier EP du groupe français Fauve. Blizzard, c'est aussi l'un des titres phares du groupe qui n'aura cessé durant sa courte existence d'énerver comme de fasciner. deux années après des débuts tonitruants, sort donc en 2013 un premier témoignage discographique, carton, bien aidé, je pense, par un 9 sur 10 sur goutemedisque.com.
C'est à cause de vous.
C'est toi qui as mis
Mais je pense, voilà. C'est pas moi. Mais on y trouvait une description de la musique que je soumets à votre jugement expert, car oui, on a tous un avis sur Fauve. Donc, je cite, Fauve serait du diabologum avec une gueule de bois, du Godard quasi slamé, du Arnaud Florent Didier, plus brut et beaucoup moins propre, du Fuzzati doté d'une voix de tête qui serait né dans le 4e arrondissement et égrènerait ses rimes sur les arrangements empruntés à Woolif. Fin de citation. On en reparle dans un instant. Donc voilà, parce qu'en attendant, l'EP, lui, il est classé à la 13e place des ventes d'albums en France et il électrise des fans qui ont été séduits par ce cri du cœur qu'on connaît tous, qu'on pourrait tous hurler.
Tu nous entends, le blizzard ? Tu nous entends ? Si tu nous entends, va te faire enculer !
Mais aussi des fans, un vrai cri du cœur, des fans séduits par une attitude...
Puis ça veut dire tellement de choses.
Non, bon,
mais... non mais man,
attends. Mais c'est trop bien.
Tout est là-dedans, quoi.
Mais oui. Ah là là, mais bon, voilà, et on était sous... J'étais peut-être, moi, quand même un petit peu séduit par cette attitude. Fauve ne montre pas son visage. Fauve n'existe qu'en tant qu'entité, que famille. Famille dont fait partie le public. Jusqu'à un certain point, le groupe a refusé de signer sur un label, sur deux disques, Vieux Frères, partie 1 et 2, puis se saborde en 2015, une bonne nouvelle, j'imagine. Pour toi.
Non, mais ça, en revanche, c'est assez punk.
Je trouve que c'est assez, on en parlait hier avec Nico, parce que ça a occupé tout notre voyage de retour, comme quoi même 10 ans après, Fauve, ça continue de cliver, parce que, j'imagine que toi, donc, Ambre, tu n'étais pas Team Blizzard.
Non, j'étais anti-blizzard. Moi, j'étais la dame météo qui disait arrêtez avec le blizzard.
C'est vrai.
Je me souviens, souvenir confus du moment où Fauve débarque. Et je crois qu'en fait, à l'époque, je vais vous dire une bonne chose. Si je n'aimais pas Fauve, c'est qu'en fait, je ne m'aimais pas moi. Ah. Non, mais en réalité, ça me met face à beaucoup de mauvaise foi. Déjà, je crois que je n'aimais pas Fauve parce que je n'aimais pas son public. Dans le sens où peut-être j'ai vu des gens aimer Fauve, qui étaient des gens que je n'aimais pas forcément peut-être à la base. Et j'ai associé tout ça et fait des amalgames pas cool. Ça m'a mis face à ma mauvaise foi aussi parce que j'étais navrée par... Navrée, c'est très fort. J'étais décontenancée par les paroles parce qu'aussi, j'écoutais très peu de choses en français. Ouais. Et je trouvais que... Voilà, j'avais une opinion sur les paroles alors que j'écoutais plein de choses anglaises qui disaient des trucs vraiment pas malins sans avoir d'opinion sur les paroles parce que je pouvais me permettre de ne pas les comprendre. Donc, mauvaise foi. Et aussi, c'est marrant comme... Au même moment, il y a l'album de La Femme qui sort, et pardon, peut-être que je brûle les étapes, mais tu vois, La Femme chantait en français, et ça, on leur a pardonné. Et je me dis que peut-être, ils sont arrivés à un moment où déjà, il y a eu les bébés Bruns qui avaient clivé un peu, et qui avaient radicalisé des gens snobs face à eux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de snobisme, en fait, dans le rejet qu'on a eu des bébés Bruns et qu'on a eu de Fauve. Peut-être qu'on pardonnait pas le français. Je pense qu'on avait une réaction épidermique au français à ce moment-là. Les chansons d'amour en français, les chansons qui parlaient de vie tous les jours en français, ça nous arrachait la gueule. Et je pense qu'il a fallu peut-être un groupe comme La Femme qui chantait en français, mais pas sur l'amour, pas sur la vie de tous les jours, avec des mots pas de tous les jours, sur des thèmes pas de tous les jours, avec un univers entre Saigon, fièvre jaune, Mars 2038, référence vintage, référence cosmique, beaucoup d'humour... Il prêtait le flanc à la critique du français, mais en l'assumant, avec des chansons marrantes comme Anti-Taxi. Et en fait, il a fallu peut-être ce groupe qui parlait en français, mais pas comme les chansons d'avant, pour qu'on leur pardonne le français, un peu comme une coquetterie, un peu comme un autre de leurs instruments. Mmh. Et ça a aidé à ce que derrière, on accepte à nouveau des chansons d'amour en français, des chansons de vie de tous les jours en français. Je pense que peut-être Fauve a essuyé les plâtres aussi de ça.
Alors que toi, t'étais juste Team Blizzard, Nico.
Moi, c'est un peu différent. Moi, c'est des amis. Déjà, les Fauves, en tout cas une partie du groupe. Et surtout, moi, à l'époque,
tu
je travaillais...
Tu pouvais pas dire ça avant, Nico.
En fait, je travaillais sur une radio qui s'appelait Le Move. Et en fait, ils avaient mis une chanson en ligne sur YouTube. Et je me souviens que je les avais reçus pour une interview, alors que la vidéo, je me demande, je sais pas si c'était Canet, l'un de leurs tubes. C'était peut-être Sainte-Anne, je saurais pas me souvenir forcément. Mais je les avais reçus pour leur toute première interview. Donc, leur toute première interview, j'étais face à eux et j'avais en face de moi des gars qui n'étaient pas encore sûrs de leur concept, qui ne savaient pas trop ce qu'ils avaient envie de raconter, qui sortaient vraiment des conneries du genre... Alors, certes, ma question n'était pas dingue, mais à la question « Quelles sont vos influences ?», ils osaient me répondre « La vie ». Les yeux dans les yeux, ils me disaient « La vie ». J'étais là « Non, t'es un pote, donc je vais te le dire. Tu ne peux pas répondre ce genre de conneries au micro. » Alors que la question des influences, tu l'auras très souvent. Et en fait, j'ai eu l'occasion de les voir grandir et de faire des dates avec eux dans un van tout pourri. Et 6 mois plus tard, le van était devenu un bus à 2 étages avec une PlayStation. Et j'ai eu l'occasion, la chance même, de les voir... En fait, vraiment de les voir douter, de les voir se perdre. Et il y avait un truc que j'aimais, je comprends, déjà je suis assez d'accord avec ta théorie juste avant, et je comprends complètement que le groupe ait pu énerver pour... Mais tout un tas de raisons.
Il y a une forme de naïveté dans ce qu'ils faisaient en réalité.
Ouais, mais alors
que certains trouvaient attachant,
oui,
et que d'autres trouvaient totalement, mais
exaspérant. Voilà, mais cette naïveté, elle était incroyablement sincère. C'est-à-dire que
oui,
Quentin, le chanteur...
Et en réalité, on ne devrait jamais en vouloir à la naïveté, à la sincérité.
Bah, peut-être.
Ça dit beaucoup plus de choses de toi quand
tu es
énervé.
Et puis, tu as le sentiment qu'ils ont été vraiment sur une forme de croissance purement organique. Je veux dire, je n'avais pas le sentiment, en tout cas, ils ne donnaient pas l'impression d'un truc calculé.
Non, et ça a été fulgurant et porté par les gens.
Et ils ont eu effectivement...
Exactement.
Ouais, voilà.
Exactement. Et en fait, il y avait ce concept, qui a évidemment ses limites, que en fait, Fauve était avant tout un collectif et tout le monde pouvait en faire partie, y compris les fans. Un concept, et en fait, je me souviens assez bien de la dernière date que j'ai vue d'eux, c'était au Bataclan. Je crois que leur dernier concert était au Bataclan. Et en fait, d'un seul coup, il y avait des drapeaux sur scène, il y avait tout un décorum. Et je m'étais dit, mais en fait, là, le concept, il marche plus. C'est-à-dire que là, ça y est, vous êtes des rockstars et vous êtes beaucoup trop loin des fans. Il y a des barrières entre vous. Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'ils ont eu raison de se séparer. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était ma petite histoire. Moi, c'était un bonheur de les suivre.
Et j'aimerais lever une omerta quand même pendant qu'on est là. Les albums qui ont des noms, qui sont pas des mots, qui sont des symboles, tu sais.
Ah,
c'est ça, dangereux.
Ouais, genre.
Même Black Star de Bowie.
Non, mais ça.
Bah, Black Star.
Non, mais c'était juste une étoile noire. Là.
Oui,
ah,
mais bon.
Oui,
alors que tu vois, à la limite, on voit que c'est une étoile noire, on peut dire que c'est la bonne étoile
noire. C'est parce que Fauve, on savait pas ce que
exactement.
C'était égal avec une barre, on savait
voilà.
pas le dire.
Mais... Donc,
je sais toujours
voilà.
pas.
Ça veut dire différent. Je sais
ouais,
pas.
Je crois.
Bref.
Tu n'es pas une femme de symbole.
Je sais pas. Je crois que j'étais vraiment probablement très snob aussi à l'époque. Et c'est le moment où j'essayais de. Je vous dis, je rentrais dans des débats musicaux. Pour ça, il faut avoir une opinion. C'est tellement plus facile d'avoir une opinion affirmée et marrante quand t'es négatif que quand t'es positif, que je crois que je me suis aussi engouffrée dans cette brèche de... Voilà, je voyais que c'était... Je jouais un peu sur du velours, les gens étaient énervés contre ça, c'était facile d'appartenir à un groupe en étant aussi énervé contre ça, c'était facile d'être marrante en les trachant, c'est toujours facile d'être marrant en trachant. Donc vraiment, ça relève d'une part de mauvaise foi et d'envie d'avoir des opinions.
Ouais. C'est vrai qu'ils avaient
c'était
ce côté...
plus risqué d'être fan, ouais, à l'époque.
Mais ils avaient ce côté très punching ball.
C'est toujours plus risqué d'être
par
fan.
Par opposition à la femme qui avait ce côté un peu cool, arty.
Bien
beaucoup
sûr,
plus
bien
difficile, sûr. Beaucoup plus difficile à critiquer. Mais justement, la fin, puisque tu en parles, c'est le troisième disque que je soumets à votre choix. C'est Psycho Tropical Berlin. Alors c'est un peu chiant parce que tu vas en parler tellement bien que là, je me retrouve avec mon petit papier.
Non, pas du tout.
Donc, pour les gens qui ont encore envie de m'écouter, c'est le petit nom du premier album d'un groupe mystérieux à ses débuts. C'est vrai, un peu comme Fauve finalement, et qui n'est pas nécessairement moins aujourd'hui, parce qu'il y a quand même encore un peu de mystère, je trouve, autour de la femme. Ils font ça extrêmement bien.
Ça bouge beaucoup
bien.
Aussi.
Voilà, c'est une entité très mouvante, un peu géométrie variable. Bref, c'est La Femme, un groupe monté par deux mecs, Sacha et Marlon, un groupe qui a mis en lumière des femmes, parmi lesquelles évidemment Clara Luciani, ancienne membre, mais les a aussi peut-être un peu invisibilisées, ne leur offrant que peu de marge de manœuvre, on trouve avec Nico. Alors, Psycho Tropical Berlin, c'est un album de sensations, c'est un album de mélodies, mais c'est avant tout le disque fourre-tout de ces deux membres fondateurs, un disque qui mélange allègrement les genres, les sous-cultures, rock'n'roll, quelque part entre punk, pop, surf music, garage rock et même bossa, ouais, un petit peu de bossa. Et puis c'est aussi l'album du tube indie, mais tube quand même sur la planche, qui, on prend les paris, dans 30 ans, sera la bande-son de quelques comédies françaises mettant en scène une rencontre dans les glorieuses années 2010.
C'est sûr.
Alors voilà, je pense que maintenant il faut en choisir un. Allez, on va commencer par toi, Ambre. Beyoncé, Fauve, La Femme.
La Femme, direct.
Tu prends La Femme.
La Femme directe, ouais. Et par je ne sais quel truchement, moi qui suis toujours quand même plutôt au courant 8 ans après la sortie des trucs, La Femme, j'ai connu ça dès la sortie de leur EP. Il y a moult longtemps, où sur la planche était déjà le single. Et à l'époque, je me souviens, typiquement, le français m'avait crispé. Je trouvais ça, c'est quoi ces paroles? Ils font rimer sensation avec sensation. Waouh, tu vois. Appeler Victor Hugo. Ça m'avait énervé. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'ils ont fait un travail cheval de Troie, parce que derrière... avec leur univers, avec leur je m'en foutisme, mi-sophistiqué, mi-foutraque. Tu vois, moi j'ai vu le français comme une coquetterie de leur part, comme un statement, alors que ça se trouve c'est juste qu'ils avaient la flemme de chanter en anglais, probablement. Tout leur truc de on est sur des planches en concert, donc foutraque, mais on utilise des térémines, qui est un truc que je découvrais à l'époque, sophistiqué. L'album qui s'appelle Psycho Tropical Berlin, c'est comme s'ils avaient demandé à une IA de trouver les trois mots qui nous auraient parlé à l'époque. On était typiquement des petits cons, je ne sais pas s'ils ont senti ce truc-là, mais on était obsédés par les mêmes choses qu'eux, des références vintage, des références cinématographiques, utiliser ces mots très beaux, pas de la vie de tous les jours, la fièvre jaune t'emportera. Enfin, ça réveillait des imaginaires chez nous. Donc ça a vraiment rencontré un public qui n'était peut-être pas massif, qui était peut-être une frange... un peu snob parisienne, mais qui était la nôtre. Donc vraiment, ça a été Chamer la femme. Et je trouve ça cool parce qu'à la fois, ils avaient ce côté très sophistiqué, très référence, très on se prend au sérieux avec nos looks, nos machins. Mais comme ils viennent pas de Paris, peut-être que c'est ça la clé, comme ils avaient aussi beaucoup d'humour dans leurs chansons, ça autorisait aussi une certaine jeunesse. C'était pas comme écouter un chanteur à texte français ou un truc très très sérieux. Il y avait ce côté marrant, ludique des concerts qui aurait pu, s'il n'y avait pas eu le côté référencé sophistiqué, évoluer dans un salut c'est cool. Ils avaient ça en eux aussi, comme ils avaient aussi un truc gainsbourgien, extrêmement intellectuel, mais tout ça mélangé. On a tous pu s'y retrouver et ça a fait digérer le français à tout le monde. Mais c'est vrai que dans leurs albums suivants, une chanson comme Où va le monde, s'ils l'avaient sorti avant le premier album, est-ce qu'on l'aurait pas moins bien aimé? Je sais pas.
Ouais, moi je préfère encore d'ailleurs ce disque-là à Psychotropical Berlin.
Il est vraiment génial.
Que j'adore surtout pour sa cover d'un artiste bruxellois que vous connaissez peut-être, Elzo Dürrt.
La cover géniale avec les trucs cachés dans les cheveux.
C'est magnifique. Ouais. Et si vous connaissez pas le taf d'Elzo Dürrt, allez voir, c'est juste dingue. Ce qu'il fait pas mal de pochettes de disques, c'est vraiment super. Allez, toi, Nico.
Même album pour toutes les mêmes raisons qu'Ambre. Il y a un truc aussi qui me plaît particulièrement chez ce groupe, c'est il y a un côté dangereux. C'est-à-dire qu'ils savent très bien jouer de leur instrument. C'est des super musiciens. Et pourtant, à chaque fois sur scène, on a l'impression qu'ils vont se planter. On a l'impression qu'ils vont se battre. Ou alors on a l'impression qu'ils vont se battre entre eux ou avec le public ou qu'une corde va lâcher. On a toujours l'impression que les chansons vont quelque part mal se terminer alors que, et c'est pareil, même sur disque, il y a un côté, t'as employé le mot foutrac et c'est exactement ça. Mais c'est un groupe qui continue à la fois de se challenger, c'est-à-dire qu'ils font des albums, franchement, parfois assez déroutants, on peut le dire.
Ouais. Et qui se renouvellent sans cesse.
Voilà, qui se renouvellent sans cesse et en même temps qui challenge aussi en permanence le public, c'est-à-dire que de tous les concerts de la femme que j'ai vus, il n'y en a aucun qui a ressemblé à vraiment un autre. C'était toujours, la setlist était toujours un petit peu surprenante, les interprétations étaient toujours étranges. Alors le côté mouvant du groupe aide aussi, mais voilà, j'aime ce groupe et j'aime ce disque aussi pour son côté un petit peu dangereux.
Eh bien, moi, je vais me demander à moi ce que je vais choisir comme
disque. Vas-y,
dis-nous. Non, moi, j'aurais choisi le Beyoncé. Ouais. Parce qu'elle me fascine, mais à un niveau qui dépasse peut-être même un peu l'entendement. Mais surtout, je choisis ce disque parce que j'imagine qu'autour de cette table, on a tous ce côté détester aller voir des concerts dans des salles immenses, dans des stades, c'est vraiment le pire de l'industrie, ça n'a aucun sens.
J'aime bien les stades, mais j'y vais du coup pas pour les concerts, j'y vais vraiment pour la kermesse, quoi.
Et moi, j'ai été voir Beyoncé pour la première fois au Sport Palace d'Anvers, qui est une salle où 20 000 personnes quand même.
Ouais.
Et c'est ce genre de concert qui te montre que on sait faire un show total, un show absolu, un show génial dans une salle de 20 000 personnes. En réalité, bon, après, il y a aussi ce côté de l'entertainment à l'américaine que les Américains maîtrisent comme personne. Ma femme a des goûts un peu plus généralistes que moi, donc j'ai pu aller voir Pink, que j'aime moins. J'ai pu aller voir Katy Perry, que j'adore par contre. J'adore Katy Perry, qui sont des shows mais exceptionnels. Je veux dire, à un moment, t'en prends plein la vue. Mais le niveau niveau d'inventivité, de créativité, la façon de se challenger elle-même qu'a montré Beyoncé quand j'ai vu cette tournée-là, là, tu te dis, mais ok, c'est bon, on peut aller voir des concerts dans des salles de 20 000 personnes et on peut vivre des expériences.
Ça va encore 20 000.
T'es quand même loin à un moment, quand t'es au bout de la salle. Je veux dire, il faut des beaux écrans. Donc voilà. Allez, le retourne. Et puis bon, Ambre, tu es une femme très occupée. Alors, on attaque sans plus tarder la seconde partie de ce podcast qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur toi, Ambre, sur tes activités du moment. Et en fait, on va commencer par une question toute bête, finalement. Tu fais de la télé linéaire, on va dire. On appelle ça comme ça, je pense, de la télé linéaire. En tout cas, à une heure fixe, tous les jours, on peut te retrouver, de la télé télévisuelle. C'était un objectif pour toi, parce que si je te pose cette question, c'est que tu as quoi, 25, 26 ans ?
26.
Tu es sur un format qui n'est pas vraiment représentatif de ta génération, on va dire. On aurait peut-être pu s'imaginer sur d'autres types de formats. Donc, comment toi, t'arrives à la télé ?
Effectivement, c'est un format que je ne regardais pas avant d'y bosser. Donc c'est un
C'est ça. Donc, tu débarques là sans vraiment connaître les codes.
Non, du tout. Du tout, mais peut-être tant mieux. Je ne sais pas. Ça s'est fait vraiment par le hasard et plus précisément par une personne qui est Marc Bauger, chroniqueur mode de Quotidien et journaliste excellent et type super. J'ai fini mes études par un stage à Society, excellent magazine français qui appartient au groupe Sopress, qui n'a que des excellents magazines. Bref, Donc je traîne beaucoup là-bas, à côté de la machine à café. Et Marc Boget travaille à Sopress, il était là dès le début de l'aventure. Donc on se retrouve à parler près de la machine à café 2-3 fois et à travailler ensemble. Et c'est au bout de quelques temps qu'il me dit, à chaque fin de saison médiatique, donc vers le mois de juin, les gens de Quotidien aiment bien rencontrer des gens à droite à gauche pour élargir leur réseau, voir s'il y a des départs chez eux, enfin voilà, se tenir un peu au courant. Et il demande à des personnes comme Marc, voilà, est-ce qu'en ce moment... il n'y a pas des gens que tu connais, qu'on pourrait rencontrer. Sachant que, de par les systèmes de la presse en ce moment, les gens sont facilement débauchables, sont rarement sous contrat, donc c'est un vivier quand même potentiel. Et très gentiment, Marc pense à moi et donne mon numéro au rédacteur en chef de Quotidien, Théodore Bourdeau, que je rencontre, et on parle pendant une heure d'un peu tout et rien, mais vraiment tout et rien, culture, foot, mode...
Fauve.
Non, personne ne parle de fauve. Non, bon, on n'y eut plus, mais ça ne s'est pas présenté. Et voilà, et au bout d'un moment, je lui demande, mais c'est quoi le job ? Il me dit, bah, il n'y en a pas. Enfin, on rencontre juste des gens comme ça. Et en fait, on s'est revus, on a reparlé de voilà, comment on pourrait faire de la culture à la télé. En fait, ça faisait un moment qu'il voulait faire une chronique culture, mais que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous qui adorons ça, la culture ne marche pas forcément à la télé. Il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de panels qu'ils ont fait, tu vois, de questions posées à des gens qui montrent que... quand on parle de culture aux gens pour la télé, il y a des mots qui reviennent comme excluant, pas pour nous.
Élitiste.
Exactement, ou alors on comprend rien. Et c'est vrai que moi, les trucs que je raconte à Quotidien, si c'est un gars avec des cheveux de riche et une chevalière qui les dit en parlant comme ça, c'est infernal d'un coup. C'est vraiment infernal. Et je pense que on est tombé d'accord sur le fait que. Ils ont peut-être vu dans le fait de faire dire tout ça par une jeune meuf de 23 ans. Une manière décomplexante de parler de culture. Et aussi, très bêtement, moi, je ne suis pas une experte. Je n'ai pas fait des études de cinéma. Je fais des études littéraires, mais je ne suis pas une experte, je ne suis pas une sachante. Donc, je ne vais pas déjà utiliser du jargon extrêmement technique pour la simple raison que je ne le maîtrise pas. Donc, je vais plutôt parler de ressenti. Et peut-être que ça dédramatise et ça décrispe certains thèmes. Et ça fait qu'on peut parler de choses très sérieuses de manière qu'il n'est pas forcément... Et pardon, je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais ça s'est fait comme ça.
Très bien. La question.
Ça s'est fait comme ça. On a lancé ça comme ça.
Comment t'opères tes choix les pièces dont tu parles, les albums, les livres, est-ce que c'est nécessairement des coups de cœur ou même pas forcément ?
Non, c'est beaucoup des coups de cœur. Quand c'est présenté sous la forme d'une vraie reco, c'est des choses qui génèrent de l'enthousiasme chez moi. Mm-hmm. Après, moi, la façon dont je pense la chronique... Et peut-être que là, on s'en éloigne un peu parce que ça évolue, mais je n'ai pas forcément envie de donner mon opinion, sauf quand c'est de l'enthousiasme. Je pense qu'on ne perd jamais à donner de l'enthousiasme. Mais par exemple, jamais je ne prendrai les 5 minutes que j'ai pour dire qu'un truc n'est pas bien. Je ne veux pas imposer ça. Je pense que l'opinion, elle a de sens quand elle est vraiment enthousiaste et sincère. Et en revanche, il y a un principe auquel je crois, c'est qu'on ne va jamais tous être d'accord sur le fait qu'un truc est bien. On ne va jamais tous aimer la même chose. Coucou fauve. Mais...
Coucou AM aussi.
Coucou AM aussi, c'est vrai, un partout.
Coucou pas mal de choses aujourd'hui, finalement.
Donc on ne va pas tous être d'accord pour dire qu'un truc est bien. En revanche, on peut tous être d'accord pour dire qu'un truc est important. Je ne sais pas si on a toujours autant envie d'opinion. En revanche, on a toujours autant envie d'histoire. Et un disque même, ou un film, ou un livre que je n'aurais pas aimé, mais dont je sais que derrière, il y a des choses à expliquer, que c'est important... Voilà. Un disque que je ne vais pas aimer, mais dont tu vas me dire... Alors, c'est la première fois qu'il y a deux styles qui sont mélangés. Ils utilisent un violon Stradivarius qui a été perdu par des pirates au XVe siècle qu'on vient de retrouver. La chanteuse qui chante, elle est trans. Et c'est la première fois qu'une femme trans fait tel style de musique. Cet album est devenu une hymne de liberté en Amérique latine, car... Enfin, voilà, les histoires, je pense que ça marche toujours. Donc, j'essaye... Moi, mon idéal, c'est plus des histoires que de l'opinion. Après, je trouve aussi qu'à la place privilégiée que j'ai, c'est un devoir... d'être un vecteur d'enthousiasme et un coup de projecteur sur ce qui se fait de bien et ce qui se fait de chouette. Et j'espère... Le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, c'est que cet enthousiasme serait communicatif et pas en vain, parce que les gens aimeraient vraiment les trucs derrière aussi.
Mais on t'autorise, tu as le droit, je veux dire, on t'autoriserait à dire du mal, c'est pas un problème. C'est juste toi qui fais ce choix-là. Vous êtes quand même, j'imagine que t'es un peu cadré dans ce que tu dois faire, peux faire.
Je sais pas s'ils me laisseraient dire du mal, j'en sais rien. En revanche...
Parce qu'une critique bien formulée est une critique... Moi, je trouve ça ultra pertinent et ultra intéressant. Il n'y a rien de plus intéressant à lire
qu'une critique négative, mais qui est constructive. Encore une fois, il n'y a rien de pire que les papiers qui sont bêtement méchants. Mais
alors, j'ai plusieurs trucs qui me viennent là-dessus. Je pourrais dire du mal de quelque chose. Par exemple, je ne vais pas dire que je trouve qu'un truc n'est pas bien. En revanche, je vais dire qu'un truc est problématique, misogyne, suscite une polémique, car tout ce qui est objectif et qui relève de l'information, ça oui. Je pense que c'est même un devoir de dire quand un disque sort et véhicule vieux clichés homophobes, enfin je te dis n'importe quoi. Juste de dire que moi j'aime pas, j'aurais du mal, déjà aussi parce que contrairement à vous par exemple qui faites des articles et les gens viennent chercher ça chez vous, moi je fais partie d'un tout. Je fais partie d'une émission. C'est-à-dire qu'on m'impose un peu au spectateur, donc je vais pas à mon tour imposer une opinion. Je pense que les gens viennent pas pour ça, ils viennent pas pour moi, ils viennent pour... à minima pour tout le monde, ou peut-être qu'ils viennent pour Yann, peut-être qu'ils viennent pour Étienne, donc je ne me sens pas en droit de donner mon opinion à moi. Ouais. Et dernier truc, mais j'ai un peu du mal, moi, avec la critique de disque, mais comme toi, d'ailleurs, tu disais à l'instant, la critique de disque, négative pour être négative. Dieu sait que ça a été un art. Dieu sait que Libé, c'est être hilarant quand il désingue un film. Ouais. Et Dieu sait que je rigole quand il trash La Petite Sirène et que la catégorie de l'article, c'est plouf ou noyade. Ça me fait toujours rire. Mais je regarde ça avec suspicion. Les gens qui, tu vois, vont juste désinguer un truc, c'est toujours plus facile d'être marrant et éloquent quand tu trash quelque chose, mais... Voilà,
moi, je trouve ça extrêmement difficile. Un 0 sur 10 à un disque est toujours un peu suspicieux. En effet, oui. On se demande toujours.
Mais nous, on a toujours ce côté, en tout cas, à Goûte Mes Disques, c'est que si quelqu'un va.
Non, mais
si quelqu'un va. Après, moi, je pars du principe que pour désinguer, il ne faudra pas, de base, aimer l'artiste. Il n'y a rien de pire qu'effectivement, en tout cas pour moi, mais les rédacteurs chez nous font ce qu'ils veulent.
L'avoir aimé un temps.
Voilà, nous, on a eu... je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, les gens régulièrement nous parlent du costard qu'on avait taillé à Jean-Jacques et Caballero, les deux rappeurs.
Ah ouais ?
On leur a mis 3 sur 10 à Double Hélice 3, qui valait, je crois, juste son 3 sur 10, qui sont des artistes qu'on adore, qu'on aime ce qu'ils font, depuis on en parle encore beaucoup. Et je trouve que justement, ça, c'est extrêmement cohérent de dire, attendez les gars, à un moment, vous avez fait de la merde, on peut quand même aussi le dire. Et Dieu sait si dans le rap aujourd'hui, le rap est devenu une musique tellement dominante et qui, je pense, commence à un peu connaître les mêmes écueils qu'a connu le rock quand il était très dominant avec... des liens entre des annonceurs, des pubs, des influenceurs, etc. Et que tu vois qu'avoir une parole rap, parfois critique, est devenu quelque chose d'extrêmement compliqué. Surtout que la personne la plus visible là-dedans, et Dieu sait s'il fait bien son boulot, c'est Mehdi Maizi, déteste critiquer. C'est une personne profondément bienveillante. On en avait parlé avec lui quand il est venu dans ce podcast.
C'est
une crème. Mais c'est un peu difficile parce que c'est vrai que parfois, moi, j'aime bien... pas une critique méchante, juste une critique négative qui dit pourquoi c'est... Alors, ça peut être comme tu dis toi-même, ça peut être problématique, etc. Mais il faut aussi pouvoir dire un peu des choses qui sont un peu plus difficiles
c'est
à dire.
C'est très agréable à écrire, hein, on va pas
et c'est
mentir,
très agréable. Et puis bon, je veux dire, tu es dans une émission où vous n'avez pas de problème, effectivement, à être critique sur quand ça ne va pas évoquer des sujets de société, des sujets politiques.
Ouais, mais il y a problématique et il y a mauvais. Je pourrais dire qu'un truc est problématique, je ne dirais jamais qu'un truc est mauvais. Et en tout cas, c'est un droit que je ne me donne pas.
Ouais.
Moi, j'ai peu confiance en mon jugement, en fait.
Okay.
Et je me suis souvent sentie disqualifiée par des retours un peu snob. Ah bon, t'aimes ça ? Ah bah non, tu... Je trouve ça dommage, en fait, d'aimer quelque chose, de prendre du plaisir à un bouquin, à un film, ensuite d'aller sur Facebook, donc on est en 1982, et de voir quelqu'un qui dit « Putain, qu'est-ce que c'est de la merde, tel truc, tu te sens disqualifié, je trouve ça désagréable. »
C'est vrai,
Chaque critique négative qu'on écrit prend la place d'une critique positive qu'on aurait pu écrire. Moi, Après, on touche vraiment un truc très générationnel, qui est, et d'ailleurs c'est un drame pour toute une industrie, qui est l'avenir de la critique même culturelle.
Ouais.
Moi je suis une génération, peut-être qu'il ne faudrait pas que je parle en termes de génération d'ailleurs, disons moi j'y suis un peu rétive. Voilà, je trouve que la critique a de sens quand elle est claire, quand elle met les yeux en face des serrures, quand elle dit pourquoi les choses sont bien, quand elle fait émerger des talents. Tout le monde parle un peu de la même chose. Les critiques ont plus les scoops. C'est plus les premiers à parler d'un disque. On l'a déjà écouté. C'est plus les premiers à voir un film à Cannes. On l'aura déjà vu. Donc, puisque tout le monde parle de la même chose, soit tu parles d'un autre truc, et à ce moment-là, t'es un vecteur d'information sur des jeunes talents et tu sers à ça. Soit tu dis d'autres choses, et à ce moment-là, tu expliques, tu proposes plutôt que tu n'imposes, tu donnes des clés de lecture. Ou alors, dernière option... Peut-être que l'avenir de la critique culture, c'est de revenir à quelque chose qui est dans son ADN depuis le départ. Quand je dis depuis le départ, c'est autant Lester Bangs que fucking Balzac. Mmh. C'est un truc de plume, un laboratoire d'écriture. Il y a plein de styles de journalistes qui ont été craftés dans la presse culture. Mmh. Le New Journalism, le Gonzo.
Ouais.
Par exemple, moi j'ai toujours adoré les critiques musicales qui font appel à des images. Il y a des tartes à la crème là-dedans. Enfin, il y a des milestones. Je crois que c'est cette fameuse critique de Bayon sur Joy Division qui est vénérée, où il dit c'est un geôlier qui fait taper la timbale en fer de sa gamelle contre les barreaux de sa cellule. Enfin, ça, je trouve qu'on touche un truc génial. Je vais donner un exemple très précis. Sophie, l'artiste électro, oui. Je la connaissais pas avant qu'elle meure. Honte à moi. Et fondamentalement, c'est pas une musique qui me parle encore. J'aimerais vraiment que ça soit le cas. Je crois que je suis peut-être encore un peu trop bas du front. J'en sais rien. En tout cas, à l'écoute, ça me laisse un peu de marbre. J'ai du mal à comprendre. Et j'ai lu une critique, une nécro, plus précisément, de Sophie. Et le journaliste disait, la musique de Sophie, c'est un arc-en-ciel qui se reflète dans une flaque de mazout. Et là, j'ai compris. Beaucoup plus que ce qu'on m'avait dit, c'est de l'hyper-pop, drill, chill, néo-house, Baltimore. Et je sais que j'ai n'importe quoi, là. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, les images... Ça, j'y crois encore. Les histoires, j'y crois encore. L'enthousiasme, j'y crois encore. Mais hormis pour le que ça te fait, j'ai du mal avec la posture de tracher un truc. Ouais. Je me souviens de Libé qui dézingue le dernier album d'Angèle.
C'est inutile. Mais tu sens qu'effectivement, ils se font plaisir. Et il n'y a rien de pire que ce genre de papier où tu es en train de lire des gens en train de se faire plaisir et tu as envie de dire ben non, mais il fallait garder juste ça pour votre discussion autour du café, de la machine à café. Mais oui, je suis
tout à fait... Et il y a un plaisir à lire, mais je...
Tu trouves, moi, je trouve même pas de plaisir parce que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes.
Quand même. Ouais. Ça, quand c'est bien écrit, quand c'est bien écrit, celui sur Angèle, je l'ai pas en tête, mais...
Celui sur le dernier Astérix, ils sont créatifs, ils inventent un faux dialogue entre Gossi et je sais pas qui.
Enfin, non, mais je veux dire, comme tu dis, ces gens savent bien écrire, et là, je trouve qu'on tombe un peu dans l'extrême inverse de ce que devrait être une critique négative. Voilà, mais voilà, j'adore les critiques négatives. Bien faite.
Je me demandais par rapport encore une fois à tes choix, Quotidien est une émission qui est très regardée. Je me demandais dans quelle mesure tu pensais à l'impact qu'allait avoir ta chronique. C'est-à-dire que, par exemple, je suis plutôt bien placé pour le savoir. Quand tu parles d'un livre, par exemple, derrière les ventes, on voit en direct les ventes qui grimpent. Est-ce que c'est quelque chose. Est-ce que tu y penses ?
Grave.
Ouais.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Okay. Et effectivement, quand tu découvres, c'est assez vertigineux. Ça a peut-être des côtés injustes d'ailleurs, mais quand effectivement je cite un livre et je le recommande, il est régulièrement en tête de vente Amazon. C'est même ridicule à ce point, mais effectivement, ça a un énorme pouvoir de prescription. C'est pour ça qu'il faut le manipuler avec précaution et que je ne recommande à l'exception peut-être de deux exceptions que j'ai dû choper parce qu'on était en rade et que c'est vraiment des choses qui, je trouve, méritent d'être lues. C'est toujours bien qu'on lise des livres, c'est toujours bien qu'on aille voir des films, c'est toujours bien qu'on aille écouter des jeunes artistes. Après, j'espère que je vais pas... J'ai peur d'émousser ce pouvoir de prescription, de l'éroder en recommandant des choses qui pourraient décevoir les gens derrière. C'est pour ça qu'il faut faire attention et je pense que j'ai un pouvoir que je n'utilise pas assez. Parce que j'ai jamais été une grande digueuse, j'ai jamais été au courant des trucs avant. Moi, je saurais jamais vous dire qui sera l'artiste de demain. Je peux vous dire qui est l'artiste d'hier ou d'avant-hier. Ça, je sais faire, mais donc je sais pas dénicher le jeune talent. Et c'est dommage parce que si je savais le faire, j'aurais une plateforme pour tellement donner voix à des jeunes gens enthousiasmants. Franchement, c'est une catégorie. C'est les JGE, les jeunes gens enthousiasmants. Il faut absolument leur donner de la visibilité. Et vous le faites hyper bien. Et je ne le ferai jamais assez. Je le fais un peu, il faudrait que je le fasse encore plus.
Mais moi, il y a un truc qui me fascine, je ne sais pas, mais j'ai eu le sentiment à plusieurs moments dans cet entretien qu'il y avait une manière de... En tout cas, j'ai le sentiment que tu ne reconnais pas ton propre talent à sa juste valeur. Pourtant, parler de musique, de culture, là, tu le fais très bien à la télé. Et ici, tu nous as démontré que tu le faisais encore mieux que moi. Moi, quand je t'entends parler, en fait, si longuement des Arctic Monkeys ou de n'importe quoi aujourd'hui, ou de Fauve, quoi que ce soit, ou de Beyoncé, je me dis, mais t'as pas ce sentiment, t'as pas ce goût de trop peu quand tu fais tes chroniques, parce que tu dois condenser un maximum d'informations en quoi 3 minutes, ça doit être, je chronomètre pas. Est-ce que t'as pas ce goût de trop peu quand c'est des œuvres que t'as adorées, et de dire, j'aurais tellement voulu pouvoir en parler plus longuement parce que ça le mérite,
si,
et parce qu'il y a des choses à dire.
Carrément, mais après, c'est aussi peut-être un service à rendre à tout le monde qu'on me force à faire court. Parce que si tu me laisses tranquille, on débouche une bouteille, je te fais 2h30 sur un bouquin, j'agite les mains, je renverse le verre. Enfin, je sais pas
c'est
si
long,
c'est
long, 5 minutes en télé en plus.
C'est
quand
hyper
même.
Long,
c'est...
5 minutes en télé. Non,
c'est long.
Ça te force à être efficace, c'est-à-dire que tu vas choisir le petit bout d'interview parlant. Oui, un côté trop peu, mais je pense qu'en fait, c'est plutôt une bonne chose à l'arrivée pour être un vecteur. Il y a un truc compliqué dans le quotidien, et pardon, peut-être que je m'éloigne, c'est que contrairement à un média spécialisé où les gens viennent chercher quelque chose, un magazine où, si tu n'aimes pas un article, tu tournes la page, mais tu as quand même acheté le magazine et tu restes dans le magazine, un site web où tu cliques pas, là, c'est une émission, tu imposes un peu tout aux spectateurs, le risque, c'est que si ça leur déplaît, ils partent, et quand ils partent, tu les perds. Il faut parler à une majorité, ce qui a un côté... parfois contraignant formellement parce que tu as envie d'aller direct à un niveau de discussion 5 et il faut se rappeler que c'est toujours un niveau de discussion 1. Et là où tu es foutu, c'est que tu ne peux que déplaire des gens en faisant ça. Dans le sens où, si je te montre une archive de 1992 d'un artiste en te disant « Vous vous souvenez évidemment de telle interview d'Iggy Pop ?» Tous ceux qui ne l'ont pas vu vont se sentir jugés, à juste titre, en disant « Bah non, je te remercie, nous on l'a pas vu, connasse. » Et on revient au truc, du snobisme et de la culture à la télé, etc., etc. Et à l'inverse, si tu dis « Vous ne direz jamais ce que ce gars a dit en 92 », tous ceux qui savent vont me dire « Mais attends, elle ne croit quand même pas qu'elle nous apprend la vie, celle-là. » Donc à chaque fois, tu dois faire attention à ménager tout le monde.
Mais déjà, je trouve que tu le fais très bien, ce côté à la fois très didactique et pas donneur de leçons, mais plutôt toi, à ton niveau, est-ce que tu aurais envie de t'épanouir, on va dire, sur des formats plus longs ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ?
Carrément. Après, je sais pas si j'ai une confiance dingue dans mon talent. Non, c'est déjà très gentil de parler de talent. J'ai pas une confiance dingue dans mon jugement non plus. Je me sens pas à l'aise dans la figure de l'experte. Je préfère le côté un peu Dora l'exploratrice découvre Joy Division.
Mais c'est ce que les gens préfèrent.
Moi, j'aime bien ce côté-là de... Tu sais, t'arrives sur la place publique du village en te disant « Les gars, sortez tous ! J'ai découvert une dinguerie ! Ça s'appelle les Stooges ! Il faut absolument que vous écoutiez ça !» Et tu vas les chercher. Voilà, l'enthousiasme, ça, je sais faire. Après, je sais pas comment je me sentirais. La figure de l'expert, j'aime pas trop. Passeuse de plat, peut-être. Avoir un projecteur que tu tournes vers des gens et d'autres gens. Dans un format long, ouais, carrément. Mais je sais pas si je saurais faire plus long. C'est ça que je veux te dire aussi.
Ouais, ça va, tu tiens bien la dune. Tu sais bien la longueur pour le moment. Sans trop de soucis, hein, je te rassure.
Si tu me laisses, je jacasse. Mais là, ce que je dis en soi, c'est intéressant si tu aimes les Arctic Monkeys. Enfin, je sais pas si. Enfin, dans tout ce que je raconte,
Je pense que les gens aiment bien d'entendre des gens passionnés. En fait, c'est ça que je trouve que c'est ça l'évolution qu'a pu amener toutes les mutations qu'a peut-être connu la presse culturelle ces 15-20 dernières années. C'est qu'on est passé à quelque chose d'extrêmement prescripteur, à quelque chose de très émotionnel. On est beaucoup plus dans l'émotion, dans un partage qui peut parfois être tout à fait naturel. Et je pense que les gens se retrouvent souvent dans ça. Alors après, ça provoque aussi parfois des extrêmes qui sont pas très amusant, mais comme l'extrêmement prescripteur était très intimidant, je peux tout à fait comprendre ce que tu dis, et je suis passé par cette phase de me dire je n'en sais pas assez, je n'en sais pas trop. Et en fait, avec l'âge, tu vois qu'à un moment, un jour, tu t'en foutras et tu dis je sais déjà beaucoup de choses, je ne sais pas tout, parce que Internet te donne ce stress, effectivement, ce FOMO et ce... Et c'est très bien ce que disait James Murphy dans Losing My Edge. Hein. I'm losing my edge to the kids qui ont en gros downloadé son Napster, tout Kraftwerk, tout Can et tout le post-punk et tout le kraut allemand. Et ça lui fout un stress. Alors que le gars a une culture encyclopédique. De dire que des mecs pareils ont réussi à être déstabilisés par des gamins qui venaient le voir, je trouve ça fou.
Moi, il y a un truc qui me fascine assez. Alors, je ne veux pas te poser la question, tu me dis si tu n'as pas envie d'en parler, mais tu parles de manque de confiance. Tu en as parlé plusieurs fois durant ce podcast. Quotidien, c'est ultra exposé, c'est ultra critiqué aussi. Tu as eu ton lot critique par le passé, mais ça paraît... Enfin, tu te blindes comment ? Tu te blindes quand même un petit peu par rapport à ça ou...
Non, au départ, tu te prends tout dans la gueule.
Ouais, ok, d'accord.
C'est
Bon, là, c'est pas ta première saison, donc je pense que ça commence...
Non, et c'est que maintenant que j'arrive à pratiquer un peu de distance, mais j'ai débarqué, j'avais 23 ans.
Ouais.
J'étais une meuf très complexée, je suis toujours... Enfin, vraiment, ça a jeté... Je veux pas avoir l'air d'être ingrate ou quoi que ce soit, parce que c'est une chance dingue et c'est aussi énormément de plaisir, mais c'est vrai que, parallèlement à ça, ça a jeté de l'huile sur beaucoup de mes feux. Notamment le truc de confiance. Par exemple, t'es une meuf, tu fais de la télé, les gens partent du principe que si tu fais la télé, c'est que tu te trouves très jolie. Il y en a beaucoup qui vont avoir une urgence à te dire que tu l'es pas. Tu découvres une noirceur dans les messages sur les réseaux sociaux, de commentaires sur le physique, où vraiment tu sens chez les gens une urgence à te dire « Attends, t'as cru que t'étais jolie ? Tu l'es pas !» Et à vraiment te le dire de mec beaucoup. Et pour peu que tu sois déjà calibré pour ne pas t'aimer, c'est assez vertigineux. Effectivement, c'est très regardé, donc il y a cette haute notion que si tu dis une bêtise, c'est une bêtise qui va se répandre, ça a des conséquences graves. Donc ça, c'est beaucoup de pression, ce qui fait que t'as encore moins confiance dans ce que tu peux écrire. Enfin, vraiment, c'est... Donc quand t'es pas calibré pour être une pour avoir des opinions bulldozers où t'es sûr de toi, quand t'es déjà en proie au doute, c'est vrai que ça te met dans une position où c'est une chose d'être parano et de partir du principe, enfin de t'imaginer que les gens vont pas t'aimer ou pas être d'accord. Quand tu le sais, très concrètement, parce qu'on te l'écrit, parce qu'on te le dit, parce que tu le vois, c'est un peu vertigineux. C'est pour ça que je garde vraiment en tête le fait que parmi les gens qui regardent cette émission, il y en a que j'agace, il y en a qui préfèrent que j'y sois pas. Donc j'ai un peu ce réflexe de mon opinion, bah, qui s'en fout, tu vois. Alors que si je donne des infos, si je donne du contenu qui est beau, si je m'efface derrière ce contenu qui peut mettre tout le monde d'accord, il y a quelque chose d'un peu plus même respectueux. Enfin, ouais. Voilà, j'ai envie que l'info, ce soit pas moi. Je trouverais ça... ce serait différent si j'avais, par exemple, un site ou des contenus sur Instagram que les gens viennent chercher. Je pourrais partir du principe que s'ils viennent me voir moi, c'est bien qu'eux. Ils aiment bien mon ton, ils aiment bien autre chose. Là, je suis toujours plus rassurée quand je suis juste dans une position de passeuse de plat vers un contenu que je trouve génial et qui peut mettre les gens d'accord.
Ouais. Et on l'a dit, bah, c'est extrêmement regardé, c'est extrêmement scruté, c'est extrêmement critiqué. Et tu es finalement assez jeune. Enfin, je veux dire,
t'as... C'est gentil.
Non, mais tu es.
Ça dépend des gens.
Mais toi, est-ce que t'as pas déjà l'impression d'être arrivé très haut, très vite? Ça te... c'est pas quelque chose qui te stresse, ce côté de se dire, je suis... Bah, on va dire que dans l'écosystème culturel, faire la culture à quotidien. Déjà,
non, c'est ouf, clairement.
T'es déjà arrivé très haut. Et finalement, on pourrait presque faire un parallèle avec Alex Turner, qui a, je sais pas, à 25 ans, le gars, il avait déjà vendu beaucoup de disques, il avait sûrement déjà fait la main stage de Glastonbury. Un peu ouais. Ce côté très vite, très haut.
Mais Alex Turner, il a quand même commencé par les petites salles crado.
Moi, j'ai un truc. Ça a monté très vite.
C'est monté très vite, mais je trouve qu'il peut quand même tirer une sensation de mérite dans la trajectoire de sa carrière. Ça allait très vite, mais il y a eu une trajectoire. Moi, j'ai une chance total et que beaucoup de gens, je pense, qualifieraient d'injuste, qui est que j'ai commencé directement par ce poste très envié, très médiatisé, que beaucoup de gens verraient comme l'aboutissement d'une carrière. Moi, je commence par là.
Mais...
ça a un côté génial, ça a eu des mauvais côtés aussi. Tu te retrouves très jeune dans un métier qui, normalement, nécessite d'avoir déjà une armure et de l'endurance et de la bouteille et de la confiance. Donc, j'ai un peu appris ça sur le tas. Mais c'est peut-être que ça explique aussi l'inconfort que j'ai à prendre ma place et donner mon opinion. C'est que j'ai pas l'impression d'avoir, tu vois, gravi des échelons un degré dingue. Il y a une rencontre qui s'est bien passée. Je pense que j'ai proposé quelque chose qui rejoignait un besoin de leur part. On s'est très bien entendu sur ce que ça devrait être la culture à la télé. Ça s'est fait comme ça, c'est une chance dingue.
Et cette violence que tu exprimes qui va graviter, qui est inévitable autour de tout cela, est-ce qu'elle a un impact sur justement la façon dont tu vas vivre ta vie culturelle, aller en festival, aller en concert? Ça n'a pas encore...
Bah alors déjà, je vais tellement moins en concert, ouais. Pour la simple bonne raison que je finis à 21h tous les jours.
En plus.
Donc, tu vois, même...
On ne t'a pas vu hier soir à Petit Bain pour les 15 ans de Goutte Mes Disques et nous en étions fort tristes.
Je suis navrée, mais tu vois, hier, j'ai fini à 22h30 et je savais que j'avais une interview très importante ce matin. Donc, je suis rentrée...
nous aussi, on le savait. Bizarrement, ça ne nous a pas empêchés d'en prendre quelques pannes de trop. Mais
vous faites ça avec une telle aisance. Paradoxalement, j'avais une vie culturelle limite plus active quand j'avais le temps, quand j'étais pigiste et que donc je faisais mes horaires et que donc j'étais au cinéma chaque après-midi et au concert tous les soirs.
Et ça ne génère pas une forme de frustration
si,
en toi?
Si, carrément.
Si, quand même, après, t'as pas ce côté...
Après,
j'ai envie de retrouver une vie culturelle.
Ouais, je baigne dans la culture toute la
ce
journée.
Ce qui est paradoxal.
Bien sûr, mais à un rythme un peu effréné. Et qui, forcément, donne un truc un peu utilitariste. C'est-à-dire que je consomme des choses en vue de peut-être les recommander. Et je me mets de côté des choses pour l'été, qui seront les livres qui sont sortis il y a longtemps, que j'ai envie de lire quand même. Donc, je sépare les combats. Et est-ce que ça impacte ma vie? Dieu merci, de manière à la fois effectivement présente, mais pas dangereuse ou désagréable. C'est-à-dire que oui, on vient me parler tout le temps, mais c'est toujours pour être gentil. Alors que, par exemple, les reporters qui font de la politique,
c'est
truc de dingue. Ouais, c'est fou quand tu vois ça. Ouais. Ils peuvent pas être en terrasse sans qu'on vienne leur dire « Ouais, vous mentez sur le Covid. J'ai pas aimé ce que vous avez dit sur telle politique. Il faut absolument que vous parliez de la collecte de déchets de plein palais parce que c'est un scandale. » Tu vois, les mecs sont assaillis. Et c'est terrible. Moi, franchement, c'est chill. Une fois où ça a été le plus... C'était un jour, il y avait des gars qui m'écrivaient, qui voulaient venir me casser la gueule, un truc. Donc là, moi, je flippe totalement. C'est ma première année, c'était mes premiers mois. Je regarde dans le métro, j'ai l'impression que tout le monde veut ma peau. Enfin, vraiment, parano 3000. J'arrive le lendemain matin au taf, j'étais à côté de Maya Mazorette, chroniqueuse féministe émérite. Je lui dis ça, elle dit genre « Oh, trop mignon. Ils veulent venir mettre leur petit poing dans ton petit nez. Elle est là, 8 menaces de mort par jour. Enfin, vraiment, les personnes qui touchent à des contenus comme ça, notamment les féministes. Tu es belge, Myriam Leroy, autrice que j'adore, ses livres sont excellents. Dieu sait qu'elle en a fait les frais de ça. Donc voilà, moi, je m'en tire vraiment bien par rapport à ça.
Myriam Leroy, que nous avons reçue dans ce podcast.
Ah, génial, il faut que j'écoute.
Ah, c'était super.
Trop bien.
Elle avait parlé de Kélis.
Sardou.
De Kélis, un bon disque de Kélis, dans mon souvenir. Bon, ben, on l'a dit, on l'a répété déjà à plusieurs reprises dans ce podcast. Tu es une personne très occupée. Je sais que tu as d'autres obligations. Donc, on va tout doucement se diriger vers la fin de ce numéro de Game Changer. Mais avant de terminer, Ambre, on voudrait te poser une ultime question. Ce podcast, donc, on te l'a dit, il s'appelle Game Changer. Alors, c'est une question rituelle dans ce podcast. On demande à l'invité, c'est quoi pour lui le prochain Game Changer? Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une tendance dans ton milieu professionnel, une personnalité, un événement, un artiste, peu importe, quel sera le prochain Game Changer?
Alors, avec mon flair habituel, je te dirais que le prochain grand talent, c'est genre John Lennon. Tu vois, un truc. Je vais vous dire une bonne chose. Ah. Écoutez-moi bien. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Le groupe de demain, ça s'appelle Keep Dancing Inc. Et c'est des gens dont je suis extrêmement fan. Accessoirement, je les connais depuis longtemps. Je les trouve chambés et viennent de sortir leur deuxième album. Ils seront au Point Éphémère très prochainement.
Et peut-être en Belgique.
Et peut-être en Belgique. Écoute, je vais leur dire. Je vais leur en toucher deux mots.
On va partir à la recherche d'éventuelles dates. Ben écoute, merci. Je pense que c'est l'heure de se quitter. Donc non sans oublier de remercier Ambre d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous surtout.
On remercie aussi Nico, que j'ai toujours un immense plaisir à retrouver plaisir quand partagé. Je viens sur Paris. Ah, toujours un vrai plaisir.
Surtout que je te trouve des studios.
Et surtout tu me trouves toujours des studios.
En fait, là, on est dans le salon de Nico, vous ne le savez pas. C'est sympa.
Ah, d'habitude.
Il y a un chien empaillé dans un coin.
Ouais, pas de
si tu avais fait le déplacement jusque Bruxelles, tu aurais eu les honneurs de mon salon et de mon chien. Mais nous sommes dans un autre lieu dont on taira le nom ici, un sous-sol lugubre parisien.
Les donc vraiment,
merci.
Mais en tout cas, vraiment, un immense merci à tous les deux. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, pensez à nous mettre évidemment plein d'étoiles, non pas dans les yeux, mais sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, pensez à nous soutenir sur la plateforme de financement Tipeee. Cet argent, je vous le promets, sera utilisé très intelligemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Nico, merci Ambre, et à bientôt pour un nouvel épisode de Game Changer. Ciao.
Et merci à toi.